Avec nous sur les ondes de
Oui.
SBS French, Nathalie Nguyen, le directeur musical du nouveau cirque du Vietnam et qui vient se produire à l'Opéra House de Sydney en juin de cette année, donc dans moins d'un mois. Nathalie, bonjour et bienvenue sur les ondes de SBS en français.
Bonjour.
Alors, beaucoup de choses dans votre CV, si on peut dire. C'est pas trop par où co commencer. Alors, on va peut-être revenir sur les débuts avant tout. Vous êtes née à Paris et vous avez un bachelor en musique de l'Université de Paris 8.
Oui, c'est ça.
Comment est-ce que vous êtes tombée dans la musique? Comment est-ce que vous avez décidé d'en faire votre carrière?
En fait, c'est assez plein de mouvements dans ma vie professionnelle. J'ai commencé très tôt avec la musique, l'école des arts d'Hanoï, étudiant en apprenant à jouer le piano. J'avais 7 ans, 8 ans. Après, pendant la guerre, on a été dispersés à la campagne. Donc, j'ai appris à jouer à l'accordéon. À l'âge de 13 ans, je suis entré dans l'école de cirque à Hanoï. Donc, 5 ans de travail à l'école de cirque, j'ai devenu un clown. J'étais le clown dans le Cirque national du Vietnam pendant 3 ans là-bas. Mais pendant toute cette période-là, la musique m'accompagne au long. Même en étant en école de cirque, je continue à apprendre la musique, un peu tout, surtout quand j'étais clown. Donc tout, guitare, clarinette, trompette, saxophone, je joue tout en fait. Mais je joue pas bien. Je touche à tout. Par contre, c'est vrai qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que quand la période de juste après naissance, jusqu'à 3 ans avant d'entrer au Vietnam, c'est ma grand-mère maternelle qui m'a nourri. Donc, elle, c'est une mélomane, donc elle écoute la musique classique tous les jours, à l'heure. Donc, voilà, mon oreille, je pense, s'est formée pendant cette période-là. Et inconscient, en étant on écoute la musique tous les jours, à l'heure donnée, l'oreille est formée, quoi. Voilà. Par contre, après, point de vue d'études, c'est autre chose. C'est apprendre, c'est la connaissance, c'est les pratiques. Mais avant tout, en fait, c'est l'oreille. Hein. C'est dans la musique, le plus important, c'est l'oreille.
Vous êtes né en France et puis vous avez étudié en
Ouais.
France. Qu'est-ce qui vous a fait revenir au Vietnam?
Premièrement, mon premier voyage au Vietnam, j'avais 3 ans. Donc, ce n'est pas du tout moi qui décide, c'est mes parents qui décident pour nous. Hein. Donc, en 62, mes parents ont décidé de retourner au Vietnam avec nous. Donc, voilà. À partir de là, nos destins sont prédestinés. C'est fait. Je suis devenu vietnamien parce que j'ai vécu au Vietnam de 3 ans à 26 ans. J'ai vécu au Vietnam. Donc voilà. Par contre, la deuxième retour au Vietnam, oui, là c'est moi qui décide. Quand j'avais 26 ans, alors non, plus que ça, 26 ans, je retourne en France. Je retourne au Vietnam définitivement en 2008. Ça veut dire que j'avais déjà pratiquement 50 ans. Donc là, c'est autre chose. Là, c'est un choix, on va dire, un choix de vie, oui. C'est une décision qui suit quelque part prédestinée. S'il n'y a pas le premier voyage, il n'y a pas le deuxième voyage. Voilà. Je suis grandi à Hanoï, j'ai étudié toute mon enfance à Hanoï. Après, voilà. Donc, j'attache beaucoup à ce lieu. Et culturellement aussi. Et après, surtout, quand je commence le travail pendant pas mal de temps, j'ai étudié la musique, musicologie à Paris 8, après ethnomusicologie à la Sorbonne. Donc, plein de choses qui m'interviennent. Et je dis, si j'ai quelque chose à faire, voilà, c'est au Vietnam pour la musique. Donc, la décision, deuxième fois, là, il y a une décision très, 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 très claire. J'essaie de retourner au Vietnam, travailler avec les musiciens, travailler avec les artistes pour essayer de créer, pour essayer de faire en sorte que mettre en valeur les patrimoines musicaux qui est très abîmé, qui est très mal connu, qui est à la fois mal préservé, à la fois mal évolué.
Avec votre frère, vous avez créé donc la première production de cirque, alors qui s'appelle Mon Village. Je vais vous laisser le dire en vietnamien parce que je vais probablement mal le prononcer, et qui
Oui.
est devenue l'une des premières exportations culturelles vietnamiennes. C'est-à-dire que c'est un spectacle que vous exportez à travers le monde.
Donc, Lang Toi, c'est notre premier projet. Ça commence en 2004-2005 entre mon frère, Lan Nguyen, moi et Ton Le, le metteur en scène. On est trois à l'époque. Moi, je vis à Paris, mon frère à Chambéry et Ton Le à Berlin. à trois, on se voit, on se discute, on monte le projet. Et donc, c'est moi qui a monté le projet avec l'association que j'ai créée, qui s'appelle Art Ensemble à l'époque. Art Ensemble, c'est une association sur, pour but de en fait, favoriser les échanges culturels entre les jeunes Français et le monde, et particulièrement avec les jeunes d'origine ailleurs. Et surtout pour nous, c'est les Damiens, quoi. Donc, à l'époque, il y a des projets, on montait un petit orchestre que les jeunes étudiants au CNR de Cergy. Donc, il y a mes trois enfants, il y a d'autres enfants. Donc, j'ai commandé un compositeur qui s'appelle Monsieur Alain Weber, qui écrit une suite de 12 morceaux pour ces jeunes-là, qui jouent la musique contemporaine, en fait, et sur la base culturelle vietnamienne. Je fournis les cassettes, les CD de Madame Quách Thị Hồ, Madame Cao. En fait, les vrais savants. Musicale ancien vietnamien, en fait, les pratiquants, les arts anciens vietnamiens qui ont encore survécu jusqu'à la fin du dernier siècle, là. Et je fournis tous ces produits audio à ce compositeur, M. Alain Weber, et il a écouté ça, il a inspiré ça, il a écrit 12 pièces. Il s'appelle ça les 12 reflets vietnamiens. Et donc, les enfants à l'époque, en l'an 2000, on joue ça, on participe aussi à Téléthon. La Tour Eiffel, là, ce groupe-là, les jouer là-bas. Voilà la musique que ce monsieur-là a composée pour les jeunes à l'époque déjà. Donc là, c'est l'histoire d'Art Ensemble. À l'époque, ça commence comme ça. C'est une conscience, la richesse, la double culture, c'est une richesse. C'est pas au lieu de refuser, au lieu de faire en sorte que c'est quelque chose qui est un peu gênant, non? Il faut leur comportement envers ça, c'est une richesse, il faut préserver, il faut exploiter, il faut faire en sorte qu'il faut fier de ça, c'est pas honte d'avoir de culture. Voilà. Donc à l'époque, c'est l'an 2000, c'est ça. Et la suite, c'est avec cette association Ensemble, on monte un projet avec l'école de Sierre, avec le Sénat de Vietnam, autour de partager entre nous, mon frère, moi, de ce qu'on a acquis en Europe. Donc voilà, la source au début c'était ça, pour pouvoir un jour, un beau jour au Vietnam, mon village apparaître. Il y a une énergie, il y a une joie, il y a une vision, et tout ça, c'est pas le hasard.
Pourquoi mon village?
Voilà. En fait, le projet au départ s'appelle pas Mon Village, s'appelle Le Souffle de l'Aurore. Le projet au départ, en 2003-2004, c'est le souffle de l'aurore. En fait, c'est un courant, un vent qui vient de où le soleil se lève, c'est de l'est. Voilà. Au départ, le nom du projet, c'est ça. Et en travaillant, qu'on arrive à créer la première ébauche du Mon Village en 2005. Comme on a utilisé la culture vietnamienne, le bambou, il y a les costumes paysans, les gens sont pieds nus sur scène, tout ça, ça reflète un village. Alors, c'est mon frère Adam dit, mais on va l'appeler mon village, Lantau. Sauf qu'à l'époque, c'est un peu gênant parce que le titre, Mon Village, vietnamien Lantau, il y a deux chansons déjà qui s'appellent Lantau. Donc, c'est pas très bien, on prend le même nom dans deux chansons pour faire un spectacle. On se dit, bah, on va essayer de trouver un autre nom. Mais 2 jours avant le spectacle, on n'a pas trouvé d'autre nom. Donc finalement, on a gardé mon village. Voilà, mon village.
Alors, vous allez venir justement en Australie en juin à l'Opéra House de Sydney. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre?
On comprend, on sent qu'est-ce que c'est le Vietnam, qu'est-ce que c'est les Vietnamiens. Qu'est-ce que c'est l'environnement culturel du Vietnam? Donc, il y a tous les objets quotidiens, il y a l'image, et il y a une douceur, il y a une tendresse, il y a, malgré l'image du Vietnam, c'est des guerriers, c'est la guerre, aujourd'hui c'est pagaille, politique aussi, tout ça, c'est merdique, hein, aujourd'hui c'est très compliqué. Par contre, le peuple reste le même. Le peuple partout dans le monde, c'est ce qui compte, ce qui vraiment, c'est on vit comme on vit dans l'eau. Le peuple, c'est ça. La culture, c'est ça. Donc, hors de tout ce qui est système, hors tout ce qui est politique, hors tout ce qui est, il y a la culture, il y a l'humanité. Là, ça reflète bien dans le spectacle. On voit bien, voilà. Pour une fois, on a une vision. Très humain envers les Vietnamiens.
C'est ce sentiment-là que vous voulez communiquer à travers ce spectacle.
Oui, mais voilà, maintenant on peut dire ça, mais pas si évident dès au début. C'est juste d'une marche, juste une envie, mais pas si clair comme ça au début, si vous voulez. Et par contre, oui, si on voit, on peut dire que dans le spectacle, il y a deux éléments très importants. Bien sûr, le plus important, c'est l'être humain, c'est les artistes. Mais après, il y a deux choses, il y a les bambous et il y a la musique. La musique est totalement, on va dire, créée sur la base de musique, de l'instrument traditionnel. Pratiquement la musique, il n'y a pas de musique amplifiée. Par contre, la dimension moderne dans cette chose-là, c'est le langage musical moderne. Et on utilise l'instrument qu'on joue dans la musique traditionnelle, mais par contre, on joue différemment. On le met dans l'espace différemment, on espace différemment, et les structures différemment, et un langage musical différemment. La musique, le langage de musique de l'alto comme d'autres spectacles, c'est la musique contemporaine, c'est pas la musique traditionnelle. Si quelqu'un attend d'avoir écoute la musique traditionnelle, non, il va être déçu parce que c'est pas tout ça. C'est la musique contemporaine. Par contre, il y a des fragments, musique traditionnelle dedans. Oui.
Comment cette production a été accueillie au Vietnam?
Au Vietnam, c'est très, très compliqué parce que si vous voulez, ma vision, au Vietnam, il n'y a pas de vie culturelle. Il y a la guerre, après, il y a la vie économique qui est en train de développer à toutes les horizons, toute vitesse. Donc, c'est gagner l'argent qui prime sur tout le reste. Après des décennies, après des générations de guerre, de chaos aujourd'hui, bon, le Vietnam essaie d'entrer dans le marché commun, essaie de travailler, enrichir, construire, mais c'est un peu pareil, ben, n'importe comment. Mais voilà. Mais la vie culturelle n'existait pas. De mon point de vue, les gens vont hurler, qu'est-ce que tu m'as mal, à mon point de vue, au Vietnam, il n'y a pas de vie culturelle.
Donc c'est difficile. Donc,
voilà, nous on est presque le seul sur ce chantier-là et c'est très dur parce que voilà, on propose des spectacles, on va dire la dimension culture est très très forte, très représentante. Donc les gens, entre guillemets, n'ont pas besoin de ça quelque part. On n'a pas une demande envers de ce genre de spectacle. Donc il y a quelques intellectuels, quelques gens qui, bon, il y en a, mais c'est pas la masse, c'est pas la population, c'est pas comme en Europe, hein. Tout le monde a une soif, tout le monde a un besoin de culture. Au Vietnam, c'est pas le cas, hein. C'est pas encore le cas. La plupart des gens enrichissent, il y a d'autres choses, et la plupart des gens sont restés pauvres. Malgré le développement culturel, beaucoup de gens au Vietnamien sont encore très très pauvres. Et voilà, le spectacle ça coûte cher. Parce que nous, on est des privés, on n'est pas du tout aidé par l'État, aucune subvention, aucune, c'est totalement privé. Donc les gens mettent l'argent dedans, ils récupèrent leur billet, donc c'est compliqué de faire du social dedans. Donc il faut le social, si l'État ne participe pas, on ne peut pas le faire. Et actuellement, l'État ne participe pas, c'est contraire. Avant, c'est tout, contrôler tout, ils mettent l'argent pour faire ce qu'ils voulaient faire. C'est des outils purement, quoi. Pour utiliser pour le fin politique, propagande, tout ça. Aujourd'hui, c'est différent, il y a les privés, sauf que les privés, pareil, le but ultime, c'est gagner de l'argent. C'est nous, entre les deux. On n'est pas des propagandes politiques du gouvernement, ni dans le privé pour gagner de l'argent. Donc, vous imaginez, et on n'est pas aidé, hein, sur l'un et l'autre. Donc, pour en arriver là, c'est vraiment, il y a quand même, il y a des gens comme, qui nous accompagnent. L'une production, par exemple, c'est nous, mais aussi il y a d'autres jeunes, d'autres gens qui font de l'argent et qui essayent de nous accompagner, qui essayent de... On est sur le même bateau, sur le même... Voilà. Donc, ce fait qu'il y a côté artistique, il y a côté une vision culturelle, il y a côté un débat, un combat, plutôt. Et voilà, on a des gens, pas assez, mais il y en a. Ça existe, des gens qui nous a compris, qui nous accompagnent, et on avance ensemble. Et grâce à ça, au début, il y a comme un village, il y a Osho, il y a Teda, il y a Palau, voilà.
Combien d'artistes forment votre troupe?
Là, on a 4 spectacles. Chaque spectacle, il y a 20 artistes. Une production, aujourd'hui, c'est une grosse compagnie dans la région. Hein. On ne peut pas comparer avec d'autres compagnies dans le monde, mais une production au Vietnam, on a 4 grands spectacles. Chaque spectacle, il y a 20 artistes. On joue permanent à Hanoï, à Ho Chi Minh Ville et à Hoi An. Il y a 3 lieux, on joue permanent en fait.
Merci Nathalie d'avoir été avec nous sur les ondes de SBS en français en direct du Vietnam.
Merci à vous.